8h44 à Paris, 6h44 en temps universel. La revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, au Sénégal, l'amnistie, pourquoi et pour qui?
Après plus de 10 heures de débats intenses, relève le site Sénégo, marqué par des tensions et une vive émotion lorsque les victimes ont été évoquées, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté hier la loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Le texte, attendu par une grande partie des victimes, des détenus et de la majorité parlementaire, a été voté par 126 députés sur 146. Alors, resituons le contexte. Entre 2021 et 2024, rappelle Afrique.com, le Sénégal a été secoué par des manifestations politiques violentes, principalement en opposition aux décisions du gouvernement de l'époque. La répression de ces manifestations a fait au moins 65 morts et de nombreux blessés. Les forces de l'ordre, soutenues par des hommes armés en civil, ont été accusées de réprimer violemment les contestations. Celles-ci ont laissé un lourd traumatisme dans le pays. La loi d'amnistie adoptée en mars de l'année dernière sous la présidence de Macky Sall visait à mettre fin à ces tensions en annulant les poursuites pour les crimes et délits commis durant cette période. Cette loi a été saluée par certains comme une mesure nécessaire pour pacifier le pays. Cependant, pointe Afrique.com, cependant, elle a rapidement suscité des critiques. De nombreux défenseurs des droits humains et des organisations de la société civile ont dénoncé la possibilité d'une impunité totale pour les responsables des violences.
Et dès son arrivée au pouvoir, rappelle pour sa part le Monde Afrique, le régime du président élu, Bassirou Diomaye Faye, avait promis d'abroger cette loi.
Oui, pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent, selon les mots du Premier ministre Ousmane Sonko, c'était en décembre devant les députés, mais c'est finalement une proposition de loi interprétative modifiant le texte qui a été adopté hier. Une proposition de loi, précise Dakar Matin, qui exclut de toute amnistie notamment les infractions criminelles ou correctionnelles telles que la torture, les actes de barbarie, les meurtres, les assassinats, les disparitions forcées et l'utilisation de nervis armés. Amadou Ba, auteur de la proposition, a souligné que tous ceux responsables d'assassinats, de torture ou de meurtres, quelle que soit leur appartenance politique, ne bénéficieraient jamais de l'amnistie.
L'ancien régime au poteau, s'exclame Wolf quotidien en première page.
Le PASTEF, le parti au pouvoir, fait le procès de Macky et de son régime. De son côté, poursuit le journal, l'opposition rue dans les brancards. L'opposition et de nombreuses organisations de la société civile estiment en effet, précise Afrique.com, que la révision de la loi d'amnistie ne répond pas aux attentes des Sénégalais. Pour eux, cette révision semble davantage protéger les militants du PASTEF qu'elle ne rend justice aux victimes. Des voix s'élèvent, comme celle du mouvement Y en a marre, pour dénoncer une politisation de la révision législative et réclamer l'abrogation totale de la loi.
En effet, renchérit le quotidien à Dakar, cette loi d'interprétation ne garantit pas toutes les conditions pour que justice soit faite.
Oui, car elle semble soustraire les émeutiers de leurs responsabilités et cibler en priorité les forces de défense et de sécurité. Et le quotidien de déplorer que ceux qui ont brûlé des bus, ceux qui ont saccagé les grandes surfaces, ceux qui ont attaqué la Sonatel, ceux qui ont brûlé l'université Cheikh Diop et pillé des commerces et des banques vont pouvoir se réfugier derrière une motivation politique pour se soustraire à la justice. Et les victimes, dans tout cela, s'indigne le quotidien dakarois, elles n'auront que leurs yeux pour constater les dégâts et éventuellement pleurer. Le soutien de l'État, elles devront s'en passer. Commentaire enfin de l'Observateur Palga au Burkina Faso, le hic est que si les auteurs de crimes graves peuvent être poursuivis, ceux responsables de dégâts matériels restent amnistiés. Certains redoutent que cette révision ne serve en réalité qu'à protéger les militants du parti au pouvoir. C'est comme si l'histoire se répétait, donc, conclut l'Observateur. Cette fois-ci, la contestation a changé de camp.
Vous revenez dans une demi-heure, Frédéric, pour votre revue de presse internationale. À la une, la guerre commerciale mondiale est déclarée.
Oui, et dans les journaux, nous le verrons tout à l'heure, Marion, stupeur, incompréhension et beaucoup d'interrogations sur l'avenir du commerce mondial.
À tout à l'heure, Frédéric Couteau, 8h48 à Paris.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
À la une, ce jeudi 3 avril, Donald Trump contre le monde entier. Le président américain fait vaciller l'économie mondiale avec ses nouveaux droits de douane sur toutes les importations américaines. Quasi toutes les pays asiatiques sont particulièrement touchés, l'Union européenne également. Et d'ores et déjà, de nombreux pays ripostent ou préparent leur réponse. Le Brésil vote une loi de réciprocité contre ces taxes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit que les Européens sont prêts à répondre, mais qu'il n'est pas trop tard pour négocier. L'Union européenne va taxer les services numériques américains, ajoute ce matin la France. Israël appelle à évacuer des zones du nord de Gaza. L'armée israélienne étend son offensive et s'empare de zones entières de l'enclave et mène aussi des frappes en Syrie. Elles ont fait 9 morts, 9 civils dans la province de Deraa, dans le sud. Israël dit avoir répondu à des tirs. Les gangs intensifient leurs attaques en Haïti, des niveaux de violence, d'insécurité toujours très préoccupants. Des milliers de personnes ont manifesté hier contre cette situation, contre aussi l'inaction des autorités. Et puis au Sénégal, dans un climat très tendu, l'Assemblée nationale révise la loi d'amnistie votée sous l'ex-président Macky Sall. Votée en 2024, donc, pour apaiser les tensions politiques liées à l'élection présidentielle, marquée par des violences meurtrières et des arrestations massives. Vous en débattez tout à l'heure avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Appelez-nous au 339 693 693 70. Appel sur l'actualité dès 8h10, temps universel. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti subissent depuis le début de l'année de lourdes pertes. Pertes infligées par l'armée du général Al-Burhan qui a repris notamment la capitale Khartoum. Les deux camps sont d'accord sur un point, pas de négociation, la guerre doit aller jusqu'au bout. Le chercheur soudanais Souleymane Baldo est le fondateur du centre de réflexion Sudan Policy and Transparency Tracker. Invité de Christophe Boisbouvier, il explique les raisons des avancées de l'armée du général Al-Burhan.
Souleymane Baldo, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les forces armées soudanaises ont-elles pris le dessus à Khartoum ?
Les forces armées soudanaises ont été dans le défensif depuis le début de la guerre, n'est-ce pas ? Elles ont subi beaucoup de revers parce que l'armée soudanaise, au début de la guerre, n'avait pas des troupes de soldats d'infanterie. L'infanterie de l'armée soudanaise, c'était les forces de soutien rapide. Et depuis le mois de septembre 2024, l'armée soudanaise a pu recruter des milliers de volontaires et il y a aussi des volontaires islamistes, des brigades djihadistes du mouvement islamiste soudanais qui se sont rejoints à l'armée et qui, disons, étaient le fer de lance de cette armée dans cette offensive.
Alors les forces de soutien rapide n'ont pas seulement perdu Khartoum, elles ont dû se retirer aussi de Wad Madani, c'était il y a 2 mois, au sud de Khartoum, et elles n'ont pas pu continuer d'assiéger El Obeid, c'est dans le Kordofan, au sud-ouest de Khartoum. Pourquoi cette série de défaites ?
La raison principale du côté des forces de soutien rapide, c'est que c'est une force milicienne. C'est une force de milice janjaïde où la loyauté des combattants est pour leur chef, disons, à cause des liens de clans, les liens tribaux. Et sur le terrain, l'armée soudanaise a visé la liquidation des commandants et cela a mené à une situation où les combattants se trouvaient sans lien direct avec leurs commandants et donc tout cela montre une faiblesse structurelle dans la formation des forces de soutien rapide.
C'est-à-dire qu'en ciblant et en neutralisant les chefs de clan et les chefs de tribu, les forces armées soudanaises ont affaibli les forces de soutien rapide.
Ils ont ciblé, disons, les chefs avec ciblage de drones, oui, mais aussi avec infiltration des forces de soutien rapide. Il y a, par exemple, Galaha, c'est l'un des plus récents, c'est quelqu'un qui était très illustre dans les rangs des forces d'intervention rapide et sa liquidation a beaucoup affaibli le moral de ces forces.
Et ce chef de guerre, il a été assassiné où ?
C'était quelqu'un qui était dans le centre du Soudan, dans la région de la capitale, et ses combattants disent que c'était par un drone qui a visé son véhicule.
Son véhicule a été ciblé par un drone ?
Voilà, c'est ça.
À Wad Madani, au sud de Khartoum, les FSR ont commis des atrocités contre la population. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont perdu le contrôle de cette ville ?
Partout où ils se sont déployés, les forces de soutien rapide se sont attaquées à la population civile. Dans certains endroits, comme dans l'état du Darfour de l'Ouest, c'était un ciblage ethnique pour des Massalites, par exemple, et c'était des actions génocidaires qu'ils ont commis contre ces populations. Un comportement criminel, et ce qui fait qu'ils n'avaient pas de soutien au sein de la population. Mais alors, au moment où l'armée soudanaise est arrivée à récupérer Al-Jazeera, et maintenant ça se passe à Khartoum, il y a certaines unités de l'armée soudanaise qui s'adonnent au même type de comportement criminel, c'est-à-dire des brigades de mort qui visent les populations de l'ouest du Soudan, du sud du Soudan, les Noubas, comme étant des collaborateurs avec les forces de soutien rapide, et ils sont en train de les liquider dans des exécutions exécution sommaire devant caméra.
Et cela se passe, dites-vous, dans l'état d'Al Jazeera et notamment dans la ville de Wad Madani au sud de Khartoum ?
Elle se passe maintenant, au moment où on se parle, à Khartoum même. Et ces brigades se sont montrées vraiment très systématiques dans la poursuite, soi-disant, des collaborateurs avec les forces de soutien rapide.
Malgré sa défaite militaire de Khartoum, le général Emeti affirme qu'il n'y aura ni retraite ni reddition. Mais est-ce qu'il a les moyens de continuer le combat ?
Alors, il y a deux choses, n'est-ce pas ? Emeti a fait ses affirmations, ses menaces dans son adresse à l'occasion de Eid al-Fitr. Le même jour, Burhan a fait un discours similaire où il a dit « pas de négociation, pas de compromis avec les forces de soutien rapide, on ira dans la guerre jusqu'à la fin ». Donc, les deux belligérants sont vraiment déterminés à continuer la guerre. Est-ce que les forces de soutien rapide a la force de continuer la guerre ? Bien sûr, ces combattants qui se sont retirés du centre de Soudan sont intacts. Et donc, les deux belligérants se préparent pour des nouvelles phases de combat.
Souleymane Baldo, merci.
Souleymane Baldo, chercheur soudanais au Sudan Policy and Transparency Tracker, avec Christophe Boisbouvier. 8h55 à Paris, 6h55 en temps universel. On vous retrouve, Maman, au supermarché. Les députés, Maman, siègent côte à côte, mais n'ont pas le même prix.
Oui, dans le supermarché de la démocratie, les députés sont la tête de gondole. C'est eux qui t'indiquent si le magasin est bien tenu ou pas, si la soupe est bonne ou pas. C'est eux qui te montrent quand il y a promotion ou solde. Les députés, c'est le bulletin météo de la démocratie. Mais sache que dans les rayons de ce supermarché, comme il y a différentes sortes de yaourts, il y a différents types de députés. T'as les députés provinciaux, les députés nationaux et enfin et surtout les eurodéputés. Tu les connais, les eurodéputés? C'est le genre de produit que tu trouves dans le rayon épicerie fine. Il y en a pas beaucoup. Et bien évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça, un eurodéputé. Ce n'est pas un élu du village. Hein. Il n'est pas départemental, provincial, ni même national. Il est continental comme la Champions League. S'il y avait une Coupe du Monde des députés, ben, l'eurodéputé serait le représentant de tout son continent. Tu vois à quelle altitude vole l'eurodéputé. Il voyage tout le temps, l'eurodéputé, de Strasbourg à son village en passant par Bruxelles, sans oublier toutes les capitales du monde où il doit aller pour prêcher la bonne parole, la bonne gouvernance, le respect de ceci et de cela, du haut de son mandat d'eurodéputé. C'est pour ça que tu ne dois jamais t'étonner de voir l'eurodéputé toujours avec un gros sac, un trolley, une valise. C'est son outil de travail, d'où l'expression « attraper l'eurodéputé la main dans le sac ». Oui, parce que sa valise, son sac, c'est tout pour l'eurodéputé. C'est son ami, son fidèle compagnon, c'est sa maison, sa voiture, son portefeuille, son compte en banque. Dès que tu lui donnes des euros, bah c'est dans sa valise qu'il les met, l'eurodéputé. C'est logique parce que dans eurodéputé, il y a d'abord euros. Des euros sonnants et trébuchants, des euros craquants ou usagés dans toutes les coupures. De 200, 100, 50, 20 et même un petit billet de 5 euros. Il ne crache sur rien, il prend tout l'eurodéputé. Mais si tu as des dollars, il prend aussi. Appelle-le pétrodollar député si tu veux. Même si tu as des CFA, il prend aussi. Des CFA plein les valises, des CFA plein les djembés. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, l'eurodéputé. Le matin, il prend le boycott. Le soir, il boycotte le boycott. Pile, il te dit de ne pas regarder la Coupe du Monde parce que le respect des droits de l'homme et tout ça. Face, il fait des excédents de bagages en revenant de Doha. Les valises et les poches pleines. Il est contre les paradis fiscaux, l'eurodéputé. Contre les dictatures, contre le réchauffement climatique, les pesticides, les boissons gazeuses sucrées. Il est contre tout ça. Mais attention, il peut changer ta vie si tu sais lui parler comme on parle au policier gondouanais à qui tu glisses un petit billet dans ton permis de conduire. Allez, à lundi.
À lundi, Maman. À suivre sur RFI, un nouveau journal d'actualité internationale.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème L'entreprise, moteur d'une croissance durable. Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique Événements, le 29 avril prochain à Paris, en partenariat avec RFI.
Ce samedi sur RFI,
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la menace russe, l'Europe se prépare à basculer en économie de guerre. La Commission de Bruxelles annonce 800 milliards d'euros pour réarmer le continent. Quelle est la stratégie des 28? Quelles sont leurs capacités de production et comment les financer? On en parle avec nos invités.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Le vibraphoniste et compositeur américain Roy Ayers nous a quittés le 4 mars dernier à l'âge de 84 ans. Il a su jouer tout au long de sa carrière avec tous les styles, du jazz au hip-hop. Très attaché à la source africaine de son univers sonore, il a été marqué par sa collaboration avec Fela Kuti. Pour lui rendre hommage, Joe Farmer nous propose de redécouvrir le témoignage de ce brillant instrumentiste dans l'épopée des musiques noires, samedi à 13h31.
RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Pour la première, une bande dessinée qui raconte, avec humour, les cicatrices de la guerre d'Algérie dans la société française. Trou de mémoire de Nicolas Juncker. Grosse embrouille autour de la création d'un musée entre une historienne pointilleuse, des politiciens ambitieux et un artiste imbu de lui-même. Instructif et savoureux.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, samedi à 18h41 sur RFI.